Eh bien voilà, arrivé à ce dimanche matin, 25 novembre, nous allons continuer donc notre étude sur le matin vient et la nuit aussi. Et je vous l'ai dit ce matin, si je vous ai demandé de relire la prophétie de Dumas dans son contexte, c'était surtout pour vous remettre en mémoire cette fameuse prophétie d'Ésaïe sur Babylone et celle sur l'Arabie dont on parle tant de nos jours à cause de cette crise du Golfe. Et je désirais que vous puissiez lire aussi le chapitre 5 de Daniel pour que vous soyez convaincus que les prophéties bibliques ont un sens littéral. Et qu'aucune prophétie de l'Écriture, comme l'a souligné l'apôtre Pierre, ne pouvait être l'objet d'une interprétation particulière, dite même symbolique. Nier le retour des Juifs dans le pays d'Israël, c'est rejeter une grande partie des Écritures. Car ce résidu juif, ce reste qui doit se convertir par l'apparition du Seigneur en gloire et par sa manifestation quand il montrera à son peuple ses mains percées et que ce peuple se prosternera et s'humiliera, bien, nier ces événements-là, c'est retrancher une bonne partie de l'Écriture et prétendre que ce sont les chrétiens qui vont établir le royaume de Dieu sur la terre, c'est tout brouillé dans la Bible. Et c'est une chose très grave. Et c'est comme si on préparait des âmes à accepter ce règne de l'Antichrist qui lui prétendra qu'il va instaurer ce règne. Et là, si nous prétendons que nous les chrétiens, nous allons pouvoir faire cela, et que quand nous serons arrivés à convertir, nous, le monde entier, alors le Christ pourra revenir. C'est favoriser les adeptes de l'Antichrist. Quand un homme viendra et dira en séducteur qu'il est le Christ, alors il nous faut faire très attention. C'est une chose excessivement grave. Et c'est pourquoi j'ai essayé de combattre avec vous à la lumière de l'Écriture sur certaines de ces pendants. L'Évangile ne convertit pas le monde, l'Évangile ampute le monde. Et les âmes qui sont gagnées à l'Évangile sont encore dans le monde, mais ne sont plus du monde. Le monde s'en va vers la colère à venir, et l'Église, formée des vrais rachetés, des croyants, s'en va vers le Seigneur, qui revient, convertit des idoles vers le Seigneur, tournées vers le Seigneur, elles servent le Dieu vivant et vrai et attendent Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Donc, la colère vient sur le monde, mais la délivrance vient pour l'Église. Et qui est-ce qui instaurera le règne de justice et de paix? Ce ne sont pas les hommes avec leurs efforts de bonne volonté, on la connaît la bonne volonté des hommes. Ce ne sont pas les efforts des hommes, mais c'est la toute-puissance de celui qui est venu une première fois comme l'agneau pour régler la question du péché et qui reviendra comme le lion de la tribu de Judas en puissance et en gloire, apparaissant du haut du ciel avec son Église, ses rachetés, qu'il aura préalablement enlevés avec lui. Selon les paraboles où il a enseigné le mystère du royaume des cieux, mais qui sont faussement interprétées, le monde ne va pas se convertir sur quatre terrains où la semence a été jetée. Il y en a combien qui produisent vraiment du fruit? Un, la bonne terre. Ce n'est pas la conversion du monde. La parabole de Livré vous montre que dans le champ qu'est le monde, où la bonne semence a été jetée, l'ennemi a jeté Livré. Et chaque fois qu'on a voulu arracher Livré, on a arraché le bon grain. C'est pourquoi il a dit, laissez-les croître les deux ensemble jusqu'au temps de la moisson. Et ce sont les anges et non pas les hommes qui vont faire la séparation, parce que les hommes se trompent. Ils brûlent une Jeanne d'Arc, puis après ils la canonisent. Du Satan. Et vous voyez toujours les hommes, quand c'est eux qui font les choses. Tandis que le Seigneur, il ne se trompe pas. Et je préfère faire confiance à mon Seigneur qu'à tous les théologiens de la terre. En toute humilité. Non, la terre, comme je l'ai dit ce matin, n'est pas pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Et si vous interprétez seulement symboliquement ces choses, eh bien, vous enlevez l'effet de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, Esaïe ne doit pas retourner à lui sans avoir produit son effet. Et la parole de Dieu aujourd'hui n'a plus d'effet dans les cœurs. C'est le monde qui s'empare de l'Église. Et l'Église ne trouve son inspiration que dans les moyens du monde. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui la renouvelle et qui l'illumine et qui la conduit. Et là même où l'on parle le plus du Saint-Esprit, eh bien, on se demande bien souvent, sans juger, de quel esprit il s'agit. Car il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit, et il y a un autre évangile, même si on l'appelle quelquefois le plein évangile. Il faudrait encore savoir d'où il vient. Et même si on appelle la pure vérité, il y a un mot de trop, elle n'est pas pure. Alors faites attention à tous ces courants et revenez à la parole. Vous devez vous dire, il a fait du surplace, ce cher ami. On est tout le temps revenu à ce Dumas. Oui, bien, je vous l'ai dit ce matin, ce Dumas, c'est silence. Faites un peu silence. Réfléchissez maintenant. Ce n'est pas dans ces journées que j'ai le plus confiance, dans ces réunions qui ont peut-être été fatigantes pour vous. Ce que je sais, c'est que quand vous serez de nouveau dans vos demeures, quand vous serez de nouveau dans vos préoccupations quotidiennes, le Saint-Esprit qui ne va pas vous laisser, va vous rappeler ces choses. Il va vous remettre en mémoire certaines vérités qui vont devenir beaucoup plus familières et vous saurez que c'est la vérité. Vous le saurez. Quiconque veut faire la volonté de mon Père connaîtra, disait Jésus, si c'est la vérité. Mais si vous ne voulez pas faire la volonté de Dieu, vous ne pouvez pas alors en recevoir davantage. Si vous voulez plus de lumière, eh bien marchez déjà avec les lumières que vous avez. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, parce que bien souvent les chrétiens sont assoupis, et quand on est assoupi, on est comme un mort. Mais quand la parole a son effet, eh bien cet effet nous réveille. Relève-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi, ou le Christ t'éclairera. Vous voulez plus de lumière, bien le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en augmentant jusqu'au plein midi. Vous n'avez pas tout compris, c'est vrai. Eh bien, le Seigneur, je lui fais confiance, il va vous conduire, car vous voyez ce que j'ai demandé au Seigneur dans ces contacts que j'avais ici aussi avec des catholiques, c'est qu'il s'élève au moins, si ce n'est pas dans nos milieux évangéliques, des hommes même dans le catholicisme, parce qu'il est capable de le faire, qui fassent une relecture de la parole, et qui comprennent la parole comme elle est, et que ça vienne plutôt d'eux que de nos milieux qu'on dit sectaires, ou qu'on appelle fondamentalistes et tout ce que vous voudrez. Je renie tous ces noms, parce que ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ça met des étiquettes et ça ne fait que nous séparer. Nous voulons Jésus et Jésus seul. Et quand nous allions, nous autres de Mahanaïm, faire des visites à Saint-Benoît-du-Lac, chez les bénédictins, nous y avons rencontré, certains s'en souviennent, il est auprès du Seigneur, dont Matisse, le père Célérier, qui lui avait eu cette vision que c'est vrai qu'il y a une vocation pour Israël, peuple terrestre du Seigneur, et une vocation pour l'Église. Et il essayait de faire comprendre ces choses par des pèlerinages en Israël où il avait sa sœur à Jérusalem, dont Matisse. Eh bien oui, et dans ces milieux-là, on m'a même demandé d'écrire un article qui devait paraître dans un journal très catholique sur ces événements-là. Je l'ai fait en me disant, ils ne publieront jamais. Mais je vois encore, à Jérusalem, le père Jean-Roger me montrant le journal, il me dit, tu vois enfin, ils l'ont publié et ils n'avaient pas retranché un mot. Je l'ai montré au fils d'un de mes amis de France, qui évidemment n'était pas d'accord, mais il l'a lu quand même en disant qu'il n'était pas d'accord. Ça, c'est son affaire. Je vous nomme pas de nom parce que je les aime tous. C'est pas une question de manquer d'amour, mais c'est une question de voir clair et de savoir si nous pouvons encore prêcher cette parole comme elle est. Parce que Romains 9, 10 et 11 n'auraient donc pas leur accomplissement. Israël a été mis de côté pour un temps, pour que l'Évangile soit annoncé aux nations, mais ce n'est pas un rejet, c'est pour un temps, et que Dieu reprendra ses relations avec Israël. Et j'ai entendu Menahem Begin, un jour à Jérusalem, quand il était premier ministre, dire « Le salut pour Israël ne peut venir que de la venue du Messie. » Vous voyez, pour Israël, il n'y a que cet espoir. Mais ce Messie que certains juifs pieux attendent, il a les mains dispersée. Et on lui dira, quand il viendra, quelles sont ces blessures à tes mains, Zacharie? Ce sont celles qui m'ont été faites dans la maison de mes amis. De sorte que les Juifs n'ont pas même besoin du Nouveau Testament pour croire finalement au Messie. Il y aura une dispensation spéciale pour ce peuple. Et de ce peuple va se lever, après l'enlèvement de l'Église, des nouveaux témoins. Des hommes qui ne sont pas compromis dans les scandales du christianisme et qui pourront apporter l'évangile du royaume à la terre habitée tout entière. L'enlèvement de l'Église ne va pas faire cesser l'annonce de l'évangile. Nous annonçons l'évangile de la grâce, mais il y a aussi l'évangile du royaume, qui a une autre tonalité, c'est le même évangile, mais il a une tonalité différente. Et puis finalement, il y a l'évangile éternel, qui sera annoncé à tous les peuples, à toutes les langues, mais par cet ange dans le ciel. Et ce message est très simple pour tous les peuples, pour toutes les nations, c'est ce message que vous trouvez dans le chapitre 14 de l'Apocalypse, craignez Dieu et donnez-lui gloire et rendez hommage, non pas à la terre, au ciel et aux créatures, mais à celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Et voilà, les païens encore auront l'occasion de se tourner vers le Seigneur et d'être saisis dans ces temps troublés qui vont suivre l'enlèvement de l'Église. Ils seront saisis. Et quand le Seigneur reviendra en gloire, il jugera ces nations d'après l'attitude que ces nations auront eu à l'égard des témoins juifs qui n'auront pas voulu le signe de la bête et qui, beaucoup, mourront martyrs, mais d'autres, eh bien, trouveront quand même une certaine compassion parmi ces gens des nations. Et nous en parlions avec un dominicain de Jérusalem, ce sont ces gens-là qui diront au Seigneur, quand le Seigneur jugera les nations, selon le chapitre 25 de Matthieu, et qu'il dira, venez les bénis de mon Père, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Mais comptez, Seigneur, que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif. Ils ne l'ont pas vu. Et puis Jésus leur dit, en tant que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères. C'est tellement beau. C'est pas le jugement dernier. Le chapitre 25 de Matthieu, il ne faut pas tout mélanger. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Il faut voir tout cela globalement. Le jugement dernier, il est dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, mais dans le chapitre 25 de Matthieu, quel que soit le titre, c'est le jugement des vivants, tandis que dans le jugement dernier, c'est le jugement des morts. Il ne faut pas tout mélanger, les torchons et les serviettes. Vous savez faire cela dans vos demeures. Eh bien, quand on lit les Écritures, il faut être sous cette dépendance de l'Esprit. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Il y a une ligne sûre et certaine. Alors maintenant, après cette petite introduction, je demande que vous nous disiez un petit peu ce qui s'est passé dans vos ateliers. Je m'excuse, hier, j'aurais voulu terminer beaucoup plus tôt en ne reprenant pas tout cela, mais comme on avait demandé qu'on le fasse, et j'étais fatigué aussi, alors je vous ai fatigué, je sais. Je m'en suis humilié devant le Seigneur. Je vous demande pardon. Mais je voudrais simplement demander au numéro 9. Tous comprennent qu'une connaissance fragmentaire de l'Écriture ne pourra jamais satisfaire les besoins de nos cœurs. Et justement, alors, aujourd'hui, les gens vous disent qu'ils ont entendu la parole, une parole, ils ont une vision, et on y va avec nos visions, et on est conduit par nos visions, par nos songes, par nos rêves. Et Jérémie nous dit, eh bien, que celui qui veut aller avec ses songes, ses visions et ses rêves, qu'il y a, ça, c'est de la paille. Tandis que nous voulons aller avec sa parole. C'est parole qui est la vérité et qui est comme un marteau qui brise le roc le plus dur. Ta parole n'est-elle pas comme un feu? Ta parole n'est-elle pas comme un marteau? Et si mon cœur est dur, je veux laisser cette parole briser mon cœur. Et s'il y a des épines et des ronces dans mon cœur, je veux laisser le feu du Seigneur consumer ces choses, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous révèle. Elle nous montre ce qui est dans notre cœur. Et c'est toujours aussi dans Ésaïe que vous avez cette merveilleuse action du Seigneur. Dans le chapitre 27e, en ce jour-là, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. En ce jour-là, verset 2, chantez un cantique sur la vigne. Moi, l'Éternel, j'en suis le gardien. Je l'arrose à chaque instant. Donc, vous voyez, vous pouvez être arrosé, recevoir un peu de fraîcheur à chaque instant quand vous êtes avec le Seigneur. De peur qu'on l'attaque, nuit et jour, je la garde. On a parlé des dangers, mais prenons cette parole à la lettre et nous serons conscients qu'il y a quelqu'un qui nous garde nuit et jour. Il n'y a point en moi de colère. Hein. C'est plus pour nous la colère. Nous avons la discipline, ce qui est autre chose. Mais ce n'est plus parce que Dieu est en colère contre nous, sa colère s'est détournée. Il n'y a point en moi de colère. Mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elle. Moi, je ne peux pas m'en débarrasser, mais lui va me débarrasser de cela. Alors, laisse-toi faire le grand message de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Je marcherai contre elle et je les consumerai tous ensemble. Alors, je dis, Seigneur, fais ton œuvre dans mon cœur, purifie-moi. Et voyez-vous, je voudrais vous dire simplement que si j'ai eu à cœur de prendre ce message pour la fin de l'année, je ne savais pas encore que peut-être on nous offrirait encore cette maison pour l'année qui vient, et je ne sais pas si nous vivrons, et si le Seigneur ne sera pas revenu. Alors, je m'ai demandé, puisqu'il faut quand même prendre des décisions, l'homme propose, mais Dieu dispose. Alors, vous avez tous pris cette feuille? Vous l'avez. Mais nous ne vous forçons pas de venir. Si vous avez été trop tanné, ne venez pas. Si le Seigneur le veut, bien, et si nous vivons, nous ferons ceci ou cela. Mais il m'a semblé que cette retraite-ci, cette dernière, était comme une préparation, donner des bases pour les sujets que nous pourrions traiter l'année qui vient. parce qu'il y a toute une partie de l'écriture que bien souvent les gens ne connaissent pas. Ils ont une très petite Bible. Il y en a qui n'aiment que les psaumes dans l'Ancien Testament. Ah oui, les psaumes. Et c'est leur Bible, c'est les psaumes. Ils en sortent pas. Mais tous les prophètes antérieurs, ils ne savent pas ce que c'est. Hein. Et pourtant, il y a des trésors. Et puis, les grands prophètes, les petits prophètes, tout ça. Enfin, qu'est-ce que c'est que tout cela? Eh bien, nous croyons que vous avez au moins compris une chose, que la parole prophétique n'est pas c'est Jésus. Que l'objet de la prophétie, c'est Jésus. C'est une personne. Alors, j'ai été amené, et vous pensez bien que c'est dans la prière que je me suis prosterné devant mon Dieu pour lui dire, mais qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Qu'est-ce que tu veux leur enseigner selon le temps où nous sommes, selon les besoins, car l'heure est avancée au cadran de l'histoire. Alors, j'ai eu ce thème pour février, la parole prophétique ou une lampe qui brille dans un lieu obscur. Comprenez-vous? Alors, cette lampe qui brille dans un lieu obscur, on va essayer de voir ce que nous découvrons dans les prophéties, qui sont souvent obscures, mais pourtant il y a une lumière. Et cette lumière, c'est le Seigneur. Là, le Seigneur lui-même, il est là, dans, qui brille dans un lieu obscur. Puis maintenant, pour cet homme, si nous arrivons là, mais c'était un prophète, l'esprit de la prophétie ou le témoignage de Jésus. C'est ce qu'il est dit dans l'Apocalypse. Parce que si nous voulons avancer, il faudra qu'on aille encore dans Daniel et dans l'Apocalypse, que nous nous familiarisions avec ces vérités. Alors, dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Jésus. C'est le témoignage de Jésus. Alors, je crois que ça peut être bénéfique. Et puis, pour terminer l'année, nous sommes là, le don de prophétie exercé en accord avec la foi. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a un tas de gens qui prétendent avoir le don de prophétie et qui vous disent toutes espèces de choses, et ce n'est pas en accord avec l'Écriture. Si vraiment une parole qu'on a pu recevoir est de Dieu, elle est conforme à la parole. Elle est conforme à la Bible. Tout ce qui n'est pas conforme à la Bible, vous le ressentir. Et vous savez, ce qui m'a fait, c'est de voir que vraiment on raconte des babioles au nom du Seigneur. Au nom du Seigneur. On met le Seigneur à toutes les choses. Le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela. Où est-il, le Seigneur? Voilà. Nous avons terminé. Tu as quelque chose encore à leur dire au sujet de. De la famille vive, je crois.
Eh bien, chers amis, une fois encore, nous sommes réunis dans cette salle en ce dimanche 25 novembre pour entendre le dernier message qui fait suite au fond à celui de ce matin sur cet oracle touchant Dumas, l'oracle du silence, puisque Dumas veut dire aussi silence. Et je veux croire qu'aujourd'hui, dans le silence de nos cœurs, nous écouterons ce que le Seigneur a à nous dire sur la réponse de la sentinelle. Le matin vient et aussi la nuit. Et je lis le texte que vous avez sur le petit feuillet vert pour le dimanche après-midi du 25 novembre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. C'est le texte d'Apocalypse, chapitre 22, verset 16. Mes bien-aimés, le grand événement que nous attendons n'est pas la nuit du jugement, ni de la colère à venir, qui est pourtant annoncée dans toutes les Écritures, mais le retour personnel de Jésus pour enlever premièrement auprès de lui tous ceux qui l'ont reçu, qui l'aiment, et qui l'attend, en même temps que seront ressuscités tous ceux qui sont morts dans la foi et qui font partie de ce que, dans bien des endroits, l'Écriture appelle la première résurrection ou la résurrection pour la vie. Alors qu'il y a une autre résurrection, la résurrection pour le jugement. Alors, nous voulons terminer, avant d'entrer dans l'adoration, nous voulons terminer en parlant de cette bienheureuse espérance qui habite dans nos cœurs, puisque l'étoile du matin s'est vraiment levée dans nos cœurs, puisque nous savons que l'étoile du matin, c'est Jésus-Christ lui-même. Et il n'est pas parti sans nous laisser une espérance vivante, une espérance bienheureuse. Nous attendons, comme nous le disions ce matin, sa parousie, qui est un mot grec, qui veut dire sa venue pour enlever les siens sur les nuées, et son épiphanie, qui est son retour, son apparition glorieuse au monde. Et quand il apparaît au monde, c'est le Christ complet qui est manifesté. La tête, elle est membre de son corps dans leur unité parfaitement glorieuse. Plus de division, plus de rides, plus de taches, plus rien de semblable. Son Église est semblable à lui. L'époux et l'épouse sont ensemble. Les noces de l'agneau ont été célébrées. Et le Christ va régner avec les siens C'est son apocalypse, sa révélation dans l'univers entier. Alors je vous ai dit ce matin que je vous signalerai très brièvement les grandes étapes du jour du Seigneur, qui n'est pas un jour de 24 heures, c'est une période, le jour du Seigneur. En tenant compte, dans tout ce que je vais dire, de l'analogie de la foi, ne mettons pas un texte en contradiction avec un autre texte, et c'est pourquoi nous resterons extrêmement prudents dans tout ce que nous avancerons. Nous ne vous en dirons pas plus que l'Écriture n'en dit. Et nous ne vous proposons pas un système d'interprétation contre un autre seulement. Nous vous demandons de rechercher vous-même, personnellement, dans les Écritures, ce que vous trouvez au sujet de ce retour de Jésus-Christ dans ses différentes phases. La première chose que nous devons attendre, c'est une promesse de Jésus. L'accomplissement de sa promesse, en dehors de toute question prophétique, Jésus a fait une promesse. Et cette promesse, nous croyons qu'il la tiendra. C'est Jean 14, versets 1 à 3. Jésus, voyant les siens, dans la tristesse, parce qu'il leur parlait de son départ, leur a dit ces paroles que j'ai déjà citées et que je vous répète parce que vous devez les avoir comme le point de départ de ce qui va arriver pour les croyants qui seront vivants à son retour. Que votre cœur ne soit pas troublé. Et vous savez, on va arriver peut-être dans les jours qui viennent, dans des périodes de troubles. Eh bien, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, car il disait qu'il retournait auprès de son Père, il était venu de Dieu et il s'en allait à Dieu. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je vais vous préparer une place. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car si je m'en vais, je reviendrai. Oui, s'il en était autrement, je vous l'aurais dit, je reviendrai. Et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous y soyez aussi avec moi. Or, on a fait de ce passage un verset presque mortuaire. On pense que Jésus revient simplement chaque fois qu'une âme quitte son corps, alors le Seigneur vient pour la prendre. Ce n'est pas le retour personnel du Seigneur. Sa venue, il l'a promis, je reviendrai. Ce n'est pas donc à la mort simplement que le Seigneur revient, bien sûr il recueille les âmes, mais ce n'est pas non plus, comme on l'a dit dans certaines églises, à l'Eucharistie, chaque fois que l'on prend la scène ou que l'on prend l'Eucharistie, on reçoit le Seigneur. Le Seigneur vient à nous dans l'Eucharistie. Il y a une rencontre, oui, c'est vrai, et nous espérons que nous l'aurons cet après-midi, une rencontre véritable, un contact personnel que nous réaliserons la présence réelle, non pas magique, mais réelle spirituellement. Quand nous communions, nous ne faisons pas simplement de manger un morceau de pain puis de boire une gorgée de vin, comme ça, maintenant c'est liquidé. Non, il y a quelque chose qui se passe entre notre âme et le Seigneur, auquel nous voulons obéir et que nous voulons honorer, puisqu'il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Et toutes les fois que nous prenons le pain et que nous buvons à la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, à la table du Seigneur, nous annonçons son retour. Nous proclamons que nous croyons à son retour. Et le geste que nous le posons peut-être pour la dernière fois parce qu'un jour il sera venu. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 17e, Jésus répondant de son cœur dans celui de son Père, a pu lui dire cette parole que je trouve absolument ineffable, « Père, je veux que quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. » À Gethsémani, pour lui-même, qu'a-t-il dit le Seigneur ? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, que ta volonté soit faite. Pour lui-même, et ce fut la mort. Mais pour nous, qu'a-t-il dit ? Père, je veux que quant à ceux que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Est-ce que ce n'est pas une promesse merveilleuse ? Est-ce que ce n'est pas vraiment un Seigneur magnifique pour nous ? D'avoir dit cela pour nous, il veut vous avoir avec lui. Alors voilà la promesse du Seigneur, d'où nous partons, et gardez cela pour vous. Gardez cela marqué. Le premier événement, c'est l'accomplissement d'une promesse de Jésus. Est-ce que Jésus est un menteur ? Non. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Mais ce que vous savez, c'est qu'il a dit que nous ne savons ni le jour, ni l'heure. C'est pourquoi nous nous garderons bien de fixer une date. Mais nous savons qu'à plusieurs reprises, il a dit « Je viens bientôt ». Et littéralement, c'est-à-dire « Je viens promptement ». Ce sera quelque chose de soudain. Même ceux qui sont prêts ne s'y attendent pas. On est comme pris par surprise. Mais il n'y a pas de surprise quand on l'attend. Il peut revenir. On est dans la joie. Parce que pratiquement dans nos cœurs, on ne croit pas simplement qu'il y a un retour du Seigneur, mais on vit dans cette attente de le rencontrer lui-même. Alors quand on sait que d'un instant à l'autre, on peut le rencontrer, il y a des choses que nous ne faisons plus. Il y a une véritable consécration, il y a une véritable séparation. Mais croire simplement qu'un jour le Seigneur reviendra, ça n'a pas d'effet réel sur notre cœur parce qu'il reviendra. C'est à la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps depuis le temps qu'on le dit. Et alors, la parole n'a pas son effet. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Il avait annoncé sa mort à ses disciples. Les siens ne voulaient pas en entendre parler. Cela ne peut pas t'arriver, Seigneur, c'est pas possible. Vous vous souvenez que Pierre avait repris le Seigneur et Jésus lui avait dit « Arrière de moi, Satan !» Quand Pierre a dit « Cela ne peut pas t'arriver !»« Arrière de moi, Satan !» Eh bien, nous voulons être de ceux qui croient non seulement que Jésus est mort, mais aussi qu'il est ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il l'avait dit à ses disciples que le troisième jour, il ressusciterait. Il l'avait entendu. Mais pour le croire, quand des femmes sont venues leur dire à ses disciples que le tombeau était vide, ils ont pensé qu'elles étaient folles. Les disciples même de Jésus. Et pourtant, il était ressuscité. Et il s'est manifesté à eux. Pendant combien de jours? Pendant 40 jours. Il s'est manifesté à eux, et un jour, 40 jours après sa résurrection, il les a conduits sur la montagne des Oliviers. Et là, le petit groupe des disciples a posé une question à Jésus ressuscité, qui avait mangé, qui avait donné toutes les preuves, assuré de la réalité de sa résurrection. Les disciples lui ont demandé, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu vas rétablir le royaume d'Israël ?» Ils auraient voulu savoir, puisqu'il était ressuscité maintenant, est-ce qu'il allait établir maintenant le royaume et les nommer ministres de son gouvernement, parce qu'ils avaient tout quitté pour le suivre, ils s'attendaient à une récompense. Et que leur dit Jésus ? Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons que le Père a déterminés. Ce n'est pas à vous de connaître cela. Vous n'avez pas à vous occuper des temps et des saisons. Savoir le jour et l'heure, ça ne nous occupe pas. Nous n'avons pas à donner des dates. Car le Seigneur nous a confié une tâche précise. Il a dit à ses disciples, vous allez dans peu de jours recevoir la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous deviendrez mes témoins d'abord à Jérusalem, dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà ce que Jésus leur a dit. Et retenez bien cela, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les saisons. Et du reste, lui-même avait dit concernant son retour dans la multitude de passages de l'Évangile que personne ne connaît le jour, sinon le Père seul. Et je me souviens de ma petite Marie-Lise qui avait 6 ans. Nous voyagions en auto, quelqu'un avait lu un livre d'une certaine femme française qui était très versée dans les Écritures, mais qui se permettait de dater à peu près le moment du retour du Seigneur. Et j'entends encore la réflexion de cet enfant qui dit, alors cette dame, elle en sait plus que Jésus. C'est très frappant. Les enfants, vous pouvez leur parler du retour du Seigneur. Mais ne leur dites pas de date, mais préparez-les à ce que eux aussi soient enlevés, qu'ils attendent eux aussi le Seigneur et qu'ils l'attendent tous les jours, mais ne fixez pas de date. Soyez captivés par la parole de Dieu et qui nous fait obéir à ce qu'il a dit. Eh bien non, nous n'allons pas mettre de date, mais nous disons que nous avons une tâche, en attendant le retour du Seigneur, une tâche précise qu'il nous a donnée, ce qu'on appelle la grande commission, qu'il a confiée à ses disciples et à ceux qui deviendraient, par leurs paroles, d'autres disciples. Il leur a confié l'évangélisation. Aller par tout le monde, prêcher l'évangile à toutes la création. Les baptisants, ceux qui croiraient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et c'est cela que nous essayons
d'apporter dans ces retraites l'enseignement, non seulement de la repentance et de la foi, mais de toutes les choses que le Seigneur nous a commandées, et il nous a commandé en particulier de l'attendre, et de ne pas dire « mon maître tarde à venir », et d'oublier qu'il peut revenir au matin, à midi, le soir, à minuit, être toujours prêt. Ça, le Seigneur l'a souligné à plusieurs reprises. Et alors, après leur avoir confié ce message, alors qu'il était sur la montagne avec ses disciples, il étend ses mains sur eux, et qu'est-ce qui se produit ? L'ascension. Ses disciples le voient s'en aller. Et qu'est-ce qu'il peut voir dans ses mains qui les bénissent ? Les marques de son amour. Les traces des Nous sommes, comme le dit encore ce cher prophète Ésaïe, nous sommes gravés sur les paumes de ses mains. Cela est vrai. Vous êtes gravés sur les paumes de ses mains. Une femme oubliera-t-elle son buisson pour ne pas avoir compassion du fruit de ses entrailles ? Même celles-là oublieront. Mais moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Voilà ce que je connais de l'Écriture quand je la repasse dans mon cœur. Et cela me fortifie où que je sois sous le ciel de ce monde. Mais pendant qu'ils regardaient Jésus, le trésor de leur cœur, s'en aller au ciel, qu'est-ce qui est parti avec Jésus ? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et c'est là le secret de cette vie extraordinaire des disciples de Jésus après la Pentecôte. Leur cœur est parti où était leur trésor. Et alors qu'avant la Pentecôte, ils se disputaient, avant l'enlèvement, ils voulaient savoir lequel serait le premier, lequel aurait la première place, vous les voyez retourner à Jérusalem et rester ensemble. Dans la prière, tout humble, attendant l'accomplissement de la promesse du Seigneur. Avec qui ? Avec Marie et les femmes au milieu d'eux. Ils sont ensemble dans la chambre haute. Mais avant qu'ils ne retournent ainsi à Jérusalem pour vivre dans cette attente qui allait fonder l'Église, le Saint-Esprit allant baptiser dans un seul corps ces croyants individuels qui étaient dispersés, ils allaient être baptisés, c'est-à-dire immergés, plongés, pour former un seul corps, non plus des membres dispersés, mais des membres qui travailleraient ensemble. Eh bien, quand ils regardaient vers le ciel, peut-être avec une certaine tristesse, tout à coup, il y a deux hommes en blanc, qui sont certainement des anges, qui leur disent, chapitre 1er, verset 11, « Pourquoi regardez-vous fixement vers le ciel ? Ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière. » Voilà ce que nous apprenons. Donc, il y a sur le mont des Oliviers, d'où le Seigneur est parti, il y a la promesse, une fois qu'il a disparu aux yeux des disciples, que le Seigneur reviendrait. Donc, il reviendra personnellement. Il reviendra en personne. Mais alors nous nous demandons comment nous voudrions en savoir un peu plus. Alors, le Seigneur nous conduit par ses apôtres à connaître un peu comment les choses vont se passer. Et c'est particulièrement à l'apôtre Paul
que ces merveilleuses choses ont été révélées. Et je vais maintenant au chapitre 15. Vous voyez, depuis Jean 14, vous passez dans Acte 1, et puis vous arrivez à 1 Corinthiens 15. Parce que ce que je vous cite, ce sont des textes. Je ne vais pas vous en donner, moi, une interprétation particulière et personnelle. Verset 50, ou disons déjà depuis le verset 49, c'est le grand chapitre de la résurrection. Christ est les prémices de la résurrection, et puis il y a ceux qui sont du Christ à sa venue, et puis ensuite il a dit, viendra la fin après. Bon. Mais prenons depuis le verset 49, puisqu'il faut aller vite. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image de la bête. C'est ça? Votre traduction révisée? Nous porterons l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Est-ce que vous pensez que nous allons entrer dans ce séjour de gloire avec nos corps de chair et de sang? La chair et le sang n'héritent du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Qu'est-ce que la chair et le sang? C'est ce qui caractérise les vivants, nous, les vivants. Hein. Nous sommes faits de chair et de sang. Et cette corruption dont il est parlé, qu'est-ce qui caractérise cette corruption? Ce sont les morts. Ceux qui sont morts en Christ, quant à leur corps, vous savez ce qu'ils deviennent? Ça ne s'améliore pas dans la terre, même si c'est dans un bon cercueil. Ça ne s'améliore pas. Ça se décompose. C'est la corruption et elle n'hérite pas de l'incorruptibilité. C'est une impossibilité. C'est ce que Paul nous dit. Alors, verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Donc, tous ne connaissent pas cette vérité. Mais si vous êtes des lecteurs de la parole et que vous la croyez, eh bien, vous aurez quelques révélations sur un mystère, parce que les mystères dans l'Écriture nous ont été révélés. C'est un quelque chose de caché, mais qui peut être révélé à celui qui croit. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que Paul a dit ça? Non. Mais nous serons changés. En combien d'années? En un instant. En un clin d'œil. Ça va vite, hein? Quelle opération. À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et aussi nous serons changés. Il se met dans ceux qui sont encore vivant Paul, même s'il doit mourir. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce mortel, ce corps corruptible, ce sont nos bien-aimés qui sont morts, ce corps mortel, c'est nos corps, aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Puisqu'elle ne pourra pas garder les morts. Ô mort, où est ton aiguillon? La mort ne gardera pas ceux qui se sont endormis en Jésus. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi.
mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux, puisque vous savez que le Seigneur va venir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous croisez les bras? Vous allez au contraire être excités à l'amour et au travail. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Mais on voudrait en savoir encore un petit peu plus de ce changement. Alors, je passe sur bien des passages, mais j'arrive dans les Philippiens, et au chapitre 3e, je vous ai cité, je crois hier ou avant-hier, des personnes qui affligeaient profondément l'apôtre par leur marche. Ils se disaient chrétiens, mais ils faisaient de Dieu leur ventre. Et je lis depuis le verset 18, Paul dit, « Il en est plusieurs, chapitre 3 des Philippiens, qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Moi, c'est un verset qui m'a beaucoup bouleversé, ça. Ne pensez donc, c'est dans nos pensées, quand on ne pense qu'aux choses de la terre, on n'est pas dans l'Esprit de Dieu. Alors, il nous faut demander au Seigneur qu'il nous délivre de ces préoccupations qui sont toujours là, préoccupations matérielles. Mais bien sûr, vous y êtes, et moi j'y suis aussi, c'est pas parce que je suis prédicateur que je n'ai pas de soucis, au contraire, je porte aussi les fardeaux des autres. Alors, mes amis, eh bien, nous voulons nous rejeter sur le Seigneur, dans toutes nos inquiétudes, en toutes choses, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, et nous resterons dans la paix. Nos inquiétudes, nous les apportons au Seigneur. Nos fardeaux, nous en déchargeons sur lui, en croyant qu'il aura soin de nous. Il l'a dit, et si vous le croyez, eh bien vous expérimentez qu'il le fait, et alors vous avez une vie d'action de grâce. Verset 20. Mais à notre cité, à nous, elle est où? Elle est dans les cieux. C'est clair. Où nous allons être, c'est dans les cieux. Même si on ne croit pas qu'il y a un ciel. Notre cité, à nous, est dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur. Mais il est déjà venu comme sauveur. Oui, mais il est aussi le sauveur de nos corps, puisque Paul nous dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. Alors nous attendons Jésus comme sauveur de nos corps, comme sauveur. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui transformera, c'est clair, hein, qu'il y aura une opération là, qui transformera le corps de notre humiliation. Et combien dans nos corps de chair nous avons connu d'humiliation. Quand nous voyons qu'il suffit qu'un organe se détraque un peu ou que c'est une question de cellule, et puis voilà que nous pouvons être paralysés ou que sais-je encore, eh bien, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce que vous croyez ça? Ce corps qui est allé glorieux après les souffrances du calvaire, ce corps de ressuscité, nous aurons un corps semblable à lui. Est-ce que ce n'est pas une bienheureuse espérance? En le rendant semblable au corps de sa gloire, et par quel pouvoir? Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. Il était dans la mort et il est ressuscité d'entre les morts. Les morts sont morts, mais lui, il est ressuscité d'entre les morts. Et nos bien-aimés aussi, ils attendent une résurrection d'entre les morts. Une hors résurrection, littéralement.
Et c'est quelque chose de merveilleux que de pouvoir croire à cela. Alors, nous voudrions en savoir un peu plus encore. Alors, nous passons plus loin et je reviens dans ce merveilleux chapitre aux Thessaloniciens où l'apôtre Paul n'était resté que 3 sabbats, mais dans ces 3 sabbats, il avait laissé à ces Thessaloniciens un véritable trésor. Il leur avait laissé les 3 vertus chrétiennes qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Et quand la foi, l'espérance et l'amour sont donnés à une âme, eh bien, qu'est-ce que cela produit? Une œuvre de foi. Un travail d'amour et une passion d'espérance. C'est ce que nous voyons dans le premier chapitre. C'est quelque chose de merveilleux. Il leur a laissé ces 3 vertus chrétiennes et ces vertus, ils les ont utilisées. Et les œuvres de foi ont été produites, la foi a produit des œuvres, le travail qu'ils accomplissaient, ils le faisaient par amour, et puis la patience qu'ils avaient pour endurer les maux, c'était la patience d'espérance. Ils espéraient dans le retour du Seigneur. Ils s'étaient détournés des idoles vers Dieu, c'est cela une conversion, c'est pas un changement de religion. Ils avaient tourné le dos aux idoles, puisque c'était des païens avant, et puis ils servaient le Dieu vivant et vrai, verset 10 du chapitre 1er, en attendant des cieux son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Donc, ils n'attendaient pas la colère, Paul leur dit bien que la colère vient, mais ce qu'ils attendent, c'est Jésus qui délivre de la colère à venir. Et alors, ces Thessaloniciens étaient un peu troublés parce que, en attendant l'accomplissement de la promesse, il y avait des leurs qui avaient cru et qui mouraient. Et ils avaient besoin qu'on leur dise davantage au sujet de cette venue du Seigneur qui avait évidemment captivé leur cœur. Comme j'entends encore une femme qui est maintenant vers le Seigneur, qui m'a dit un jour, « Et vous avez mis si longtemps pour me parler de cette vérité, vous l'avez gardée pour vous. » Une femme, vous savez, on est humilié, on est dans ses petits souliers. Quand on entend cela, si vous croyez cela, quelle espérance, quel changement dans une vie, de savoir que d'un jour à l'autre, tout peut changer. Et ce n'est pas une illusion. Alors, verset 13, et je relis ces passages, c'est simplement pour vous donner les grandes lignes. Nous ne voulons pas, frères, chapitre 4, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est donc de ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Donc s'il les ramènera, c'est qu'il les a pris pour pouvoir les ramener avec lui. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ, donc pas tous les morts, ceux qui sont morts dans la foi, ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous enlevés ensemble. Est-ce que c'est moi qui l'invente? Vous pouvez refuser cela, c'est votre affaire, pas la mienne. Nous serons enlevés ensemble avec eux sur les nuées ou dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur.
C'était ce que nous disions dans notre introduction. Être toujours avec le Seigneur. Ça ne vous en sauve pas.
Hein? Ah, heureusement que c'est fini à bientôt. Être toujours avec le Seigneur. Mais vous aurez un autre corps. Vous aurez votre corps de gloire, alors vous pourrez tout supporter. Nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc l'un l'autre par ses paroles. Et quelle consolation ces paroles ont apporté. Être toujours avec le Seigneur. Une réunion éternelle avec lui. C'est quelque chose. Mais au chapitre 5, alors, nous voyons qu'il faut encore un peu d'explication. Verset 1er. Pour ce qui est des temps et des saisons, ou et des moments. Vous avez déjà trouvé ce verset? Où est-ce que nous avons lu cela? Pour ce qui est des temps et des saisons. Qui est-ce qu'il y a? C'est là. Non, acte. Hein? Sur le mont des oliviers. Sur le mont des oliviers. Les disciples ont dit, est-ce en ce temps si que tu établiras ton royaume? On est toujours préoccupé du moment, n'est-ce pas? Et alors ici, Paul nous dit bien que pour ce qui est du moment, des temps et des saisons, ou du moment, des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ça ne vous concerne pas, ça. Comprenez-vous? Ça ne vous concerne pas. Ce que vous devez faire, c'est l'attendre. Mais fixer le jour et le moment, ça ne vous concerne pas. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, ce jour du Seigneur, est-ce que vous attendez le voleur? Est-ce que ça vous concerne? Un voleur dans la nuit? Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire du mal? Bien sûr. De quoi est-il question quand il parle du voleur dans la nuit? Ce n'est pas de l'enlèvement des croyants. C'est une phase de son retour. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. C'est une autre catégorie de personnes. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, ça ne vous concerne pas. Vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit. Alors, est-ce que ça rejoint du mal? Mais vous voyez que il faut répéter souvent les mêmes choses pour que tout d'un coup, tiens, il y a un déclic. Et puis, on commence à comprendre. Hein? Nous ne sommes point de la nuit et des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres. Qui est-ce qui dort? Qui n'ont pas la vie. Mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit. Et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, nous sommes du jour. Soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Voilà de nouveau une affirmation. Ça ne nous concerne pas la colère à venir. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il viendra et qu'il aura transformé notre corps d'abaissement à la conformité de son corps de gloire, nous posséderons le salut, que nous n'avons encore qu'en espérance. Nous le posséderons réellement. L'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, si nous sommes en vie, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Vivre ensemble avec lui, voilà notre espérance. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et alors, voilà, vous pourriez continuer, mais je m'en vais m'arrêter parce que je veux que vous ayez faim et soif d'en connaître davantage. Et je ne m'en vais pas vous faire maintenant le tableau de ce qui va se passer dans le ciel. Parce qu'alors, n'est-ce pas, une fois que l'Église est enlevée, il y a des choses qui se passent dans le ciel. Ce sera peut-être pour une autre fois. Mais moi, je voudrais que vous alliez chercher un peu ce qui peut se passer dans ces aimables demeures de la maison du Père, quand le Seigneur y aura introduit son Église. Il y a le tribunal du Christ, devant lequel tous nous comparaîtrons selon 2 Corinthiens chapitre 5, pour être jugés non pas quant à nos âmes, mais quant à nos œuvres. Le travail de chacun sera manifesté. Si depuis que vous êtes au Seigneur, vous avez construit avec du bois, du foin et du chaume, il y aura beaucoup de fumée. Hein, parce que l'ouvrage de chacun sera éprouvé par le feu. Alors, veillez à travailler avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. Entrez, non pas, ne faites pas des œuvres pour le Seigneur, mais entrez dans les bonnes œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. On n'a pas à chercher des œuvres, on a à entrer dans les œuvres qu'il a préparées exactement pour nous. C'est cela. Et alors, évidemment, depuis notre conversion, notre vie, c'est un capital vraiment. Et qu'est-ce que nous accomplissons pour le Seigneur? Est-ce que nous laissons le Seigneur accomplir avec nous ce qui est sa volonté? Je ne veux pas faire ma volonté, mais Seigneur, je veux faire ta volonté. Ma nourriture, c'est de faire ta volonté. Et c'est ça notre vie, et c'est cela notre force. C'est cela qui nous renouvelle. Nous trouvons dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, eh bien, nous trouvons une force nouvelle. Il marche de force en force, comme le dit le psalmiste. Alors oui, dans le ciel, il y aura des choses qui vont se passer. Il y aura donc le tribunal de Christ. Mais ensuite, il y aura les noces de l'agneau. Heureux les invités aux noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir un vêtement de fin lin éclatant et pur, qui sont les justices des saints. Les justices des saints, c'est quelque chose de merveilleux. Eh bien voilà, il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel. Mais sur la terre, ben, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer sur la terre. Vous avez cela dans l'Apocalypse. Une fois que les croyants seront loin, ce qui retient la marée noire du péché, eh bien, il n'y aura plus rien qui retient. La présence des chrétiens est quand même un frein à l'iniquité, à l'immoralité. Mais quand les vrais chrétiens, quand le sel de la terre, puissions-nous être le sel de la terre. Quand le sel de la terre sera enlevé, quand le Saint-Esprit aura été retiré avec l'Église, alors il n'y aura plus rien pour empêcher Satan de se manifester par ces deux instruments qu'il va trouver ici-bas dans ce gouvernement mondial, politique et religieux, avec la Grande Babylone, tout ce que vous avez là, dans l'Apocalypse, et les nations croiront pouvoir s'élever au rang de Dieu, ce qu'Adam avait voulu faire déjà. Eh bien, ils vont essayer de le refaire, mais ce sera par la puissance de Satan. Il y aura cette espèce de miracle mensonger. Et cette foule de gens qui sont restés sur la terre,
qui a entendu l'évangile mais qui n'a pas voulu y croire, qui s'est moqué de ces choses, eh bien, il est dit qu'ils croiront au mensonge et ils seront entraînés dans cette grande vague et ils deviendront les supporters de l'Antichrist, du faux prophète, et tout cela, nous croyons que ce n'est pas symbolique, et nous commençons de voir toute une préparation concernant ces choses. Mais avant qu'ils ne paraissent, eh bien, il est bien possible que l'Église soit enlevée pour que s'accomplissent toutes ces prophéties. Et quand les hommes auront cru être arrivés justement au sommet avec leur technologie, avec tout ce qu'ils inventent, et qu'ils auront répondu aux désirs de la chair, parce que Satan voudrait satisfaire tous les désirs de la chair, la sécurité dans tous les domaines, mais où il y aura l'adoration de la bête, alors que se passera-t-il? Ce sera le moment de la colère. Sur cette terre, pour les Juifs, il y aura la grande tribulation. Et puis, ce sera l'heure de la tentation eschatologique dont le Seigneur disait dans sa prière qu'il enseignait aux siens, « Ne nous induis pas dans la tentation. » C'est cette tentation eschatologique de la fin dont il est question dans la prière dominicale, qui sera vraiment la prière de tous ceux qui, au travers de la tribulation, se convertiront, parce que l'Évangile encore sera annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, mais non pas par des gens de l'Église, parce qu'il y aura une fausse Église, l'Église apostate, mais par des hommes nouveaux, convertis en essentiellement du judaïsme, et qui s'en iront prêcher l'Évangile, qui subiront toute espèce de persécution, mais ils seront les frères du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, quand il revient en gloire avec son Église, eh bien, il les appellera ses frères. Et il dira à tous ceux qui auront quand même aidé ces gens-là, eh bien, venez les bénis de mon Père. J'ai eu faim, j'ai eu soif, etc. Ce que je vous ai déjà dit. Eh bien non, je ne vais pas entrer dans le détail de ce qui peut se passer sur la terre, mais je vous lis encore dans Thessaloniciens, deuxième épître, nous ne devons, verset 3, nous devons à votre sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi a fait de grands progrès, et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus, qu'il en soit ainsi. Hein. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos pour avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel. Ça, c'est son épiphanie. Le monde entier le verra. Avec les anges de sa puissance. Car quand il vient pour enlever les siens, il y a bien, oui, une action angélique dans la création, mais il y a la voix de l'archange, il y a le cri de commandement du Seigneur, il vient personnellement. Mais là, il vient avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Car notre témoignage auprès de vous
a été cru. Oui, les Thessaloniciens seront là. Et vous serez là, je veux le croire. Et ce que le Seigneur a pu produire en vous sera manifesté. Quand lui viendra, chapitre 3 des Colossiens, et qu'il sera manifesté, c'est lui qui nous manifestera avec lui. Nous n'avons pas à nous manifester nous-mêmes, nous avons à le manifester. Et quand lui viendra dans son retour en gloire, et que nous serons avec lui, selon le chapitre 19 de l'Apocalypse, que vous lirez vous-même, quand le Seigneur verra que tout est mûr pour venir pour juger, alors que le monde sera dans une faillite complète, eh bien, je ne veux pas entrer là-dedans, mais chapitre 19, après cela, donc j'entendis, donc après la ruine de Babylone, dans le ciel, comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, et qu'il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en leur redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» et la fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen !»« Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, ses petits et les grands. » Et puis il y a toute l'histoire de l'épouse. Et puis, verset 12, verset 11, « Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. » C'est pas comme ça qu'il est parti, hein, le Seigneur. Il est dit qu'il reviendra pour les siens comme il est parti. Il revient le même. Et là, il revient avec les siens. Il s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement peint dans le sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. Sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Vous y serez ? Je veux le croire. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations, et il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et c'est après cela que le Seigneur, ayant jugé le monde, établira son règne où toutes ces parties merveilleuses des prophètes qui nous donnent un tableau de ce que sera le règne du Seigneur dans cette création qui soupire, qui est en travail. Alors, le grand écologiste aura tout remis au point, et la terre sera délivrée du joug de la servitude, et il est dit que les blés brûleront jusqu'au sommet des montagnes. Il y aura de la nourriture pour tous, et un temps de bénédiction, et si nous avons accepté de souffrir avec lui, nous régnerons aussi avec lui. S'il les pètera avec une verge de fer, nous serons aussi avec lui. Il y aura des relations entre le ciel et la terre. Ce que nous connaissons maintenant n'est pas normal. Dieu voulait visiter la terre. Il devait y avoir relation entre le ciel et la terre. Eh bien, les cieux visiteront la terre et la terre aux cieux répondra. Ce sera quelque chose de merveilleux. Et pendant le règne, Satan aura été lié. La bête, elle faut prophète jeter dans les temps de fête, souffre, et puis Satan lié, pour que pendant 1000 ans, qu'ils ne puissent pas agir. Évidemment, s'il y en a qui rient avec ça, peu importe, Dieu va donner encore une occasion aux hommes de manifester ce qu'ils sont. Eh bien, après 1000 ans de paix, nous apprenons par la parole que Satan, ayant été délié, parce que pendant le règne, toutes les générations qui naîtront pendant le règne devront aussi se convertir au Seigneur, mais ce sera beaucoup plus facile de se convertir au Seigneur quand Satan est lié. Mais ce qui montre que le cœur de l'homme ne change pas, c'est que là, pendant ce temps où Jésus règnera, le mal ne pourra pas subsister. Immédiatement, il a dit, le méchant sera retranché tous les matins. C'est impossible que le mal subsiste. Maintenant, on ne comprend pas que certains hommes subsistent, et si on les liquidait, si on demandait la CIA, puis autre chose encore, pour liquider ces types-là qui nous empoisonnent, eh bien, ça irait mieux, n'est-ce pas? Non, Dieu donne à tous un temps de repentance. Mais au moment du règne, quand il sera là, le mal ne pourra pas subsister. Alors beaucoup, ne voulant pas mourir, mettront le poing dans leur poche. Mais quand Satan sera délié, alors ils se manifesteront et il y aura une révolte contre la cité bien-aimée, contre le camp des saints, comme il l'a dit. Mais tout cela, il faut que vous vous habituiez à la prophétie, que le Seigneur vous en donne le goût, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un avenir. Et quand le Seigneur aura régné, parce qu'il faut qu'il règne, on a vu qu'il n'y a eu que des règnes de bêtes féroces, il faut qu'il y ait un règne humain. Quand le Seigneur aura régné et qu'il y aura eu la dernière révolte, alors c'est la fin du monde. Donc vous voyez qu'elle n'est pas pour bientôt, la fin du monde. La fin du monde vient, selon l'Écriture, après le règne. La fin du monde est pour après. Eh bien, les cieux et la terre passent avec un bruit sifflant. Et puis, les éléments sont dissous, et c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et c'est à ce moment-là que ce royaume, hein, qui appartenait au Seigneur le remettra à Dieu le Père, et Dieu sera tout en tous. C'est l'état éternel. Et bien que cette vision de ces grands événements soit un peu dans vos pensées, et si ces quelques jalons ont pu vous aider et vous donner le goût de la prophétie, eh bien, j'en serai heureux. Je ne vous impose pas de schéma, j'ai essayé de vous montrer ce qui est dit dans l'Écriture. Amen.